Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette 10e émission Libre en Lutte. Aujourd'hui, on va aborder le thème des Amérindiens en Amérique du Nord. Au programme, on va donc se pencher sur la place des femmes dans les nombreuses tribus qui étaient de type matrilinéaire. On va parler des tribus qui ont servi d'exemple pour le communisme primitif. On va parler aussi un petit peu d'éducation, d'écologie. Et forcément, on va voir les bouleversements que ces tribus ont connus avec cette colonisation venue d'Europe et qui portait des valeurs juste un petit peu différentes. Donc, on va éviter tout excès de romantisme aussi, puisque on va parler de l'esclavage par les Amérindiens ou la participation de tribus dans la guerre civile du côté des confédérés, c'est-à-dire des sudistes. Donc, puisqu'on va pas faire dans l'indigénisme, moi, musicalement, j'ai choisi des artistes d'origine amérindienne ou de groupes d'origine amérindienne et qui étaient dans les courants musicaux de l'époque. Donc, on va écouter du rock'n'roll, du funk rock, du rock sudiste, etc. Donc, une émission 100% vinyle. Alors, en préambule, on va parler du vocable et des chiffres et des livres. Donc, pour ce qui est du nom des tribus attribuées aux nations indiennes, en fait, c'était rarement celles qu'elles s'étaient données elles-mêmes. Il y a aussi des noms qui sont donnés à un ensemble de tribus. Par exemple, il n'y a pas une seule tribu Sioux qui existe. C'est un nom utilisé pour indiquer un groupe spécifique de tribus qui sont proches culturellement. Donc, il y aura les Lakota, les Nakota, les Dakota. Et la tribu des Lakota elle-même se constitue de sept clans, dont les Incapas de Sitting Bull. Ce qu'on appelle les Iroquois, c'est pareil, il n'y a pas une seule tribu qui s'appelle Iroquois. Ce sont cinq puis six nations, donc il y a les Mohawks, les Onondaga, etc. De la même façon, alors les chercheurs parlent des Anishinabés, c'est l'ensemble des nations qui parlent des langues algonquiennes, dont les langues se ressemblent. Un ensemble qui en inclut donc les Algonquins, c'est le groupe majoritaire, donc nous on va dire Algonquins. Quand on parle des Indiens Pueblo, en fait, ce sont les tribus qui vivent dans ces habitats très resserrés, ces villages, qui peuvent avoir aujourd'hui 500 ou 1500 ans. C'était l'habitat des Anasazi auparavant, aujourd'hui c'est l'habitat des Hopis ou des Zuni. Ensuite les chiffres, alors en faisant des recherches, on trouve des chiffres parfois très différents, puis qui ont évolué avec le temps. Quand c'est un nombre de victimes dans un massacre, etc. Donc nous, je vais annoncer des chiffres avec parfois 3-0. Disons que ça va donner un ordre de grandeur. Alors pour ce qui est des livres, il n'y a pas un livre qui regrouperait tous les thèmes qu'on va aborder. Il y a même très peu de livres en général. Et on peut retrouver des vieux livres de 1924 réédités 5 fois. Plein de préjugés, de stéréotypes, assez racistes même, des bouquins qui sont à peine au niveau des vieux westerns. Donc on va commencer par nos sociétés matrilinéaires. Donc les Européens vont arriver sur un continent où les sociétés peuvent être très différentes. Donc c'est notamment le cas pour la place des femmes dans les sociétés matrilinéaires. Donc on commence au nord-est avec les Iroquois, donc chez qui les femmes étaient très, très autonomes. Elles pouvaient choisir leur mari, elles pouvaient les repudier très facilement d'ailleurs, elles possédaient la terre, la maison, les réserves de nourriture, elles avaient une place importante dans les cérémonies religieuses, elles participaient au conseil et elles avaient le pouvoir de révoquer un chef ou parfois, on lit, de nommer un chef. Et c'est pas la seule tribu. Au sud-ouest, donc, on a les Zuni et les Hopis. Donc là c'est pareil, donc quand on parle de sociétés matrilinéaires, on parle de celles qui sont du type exogame, c'est-à-dire celles dans laquelle l'appartenance au groupe tribal dépend uniquement de l'ascendance maternelle. Donc là encore tous les biens sont à l'épouse, le mari va habiter chez l'épouse, on parle de matrilocation, et quand elle ne veut plus de lui, elle dépose les affaires du mari devant sa porte, et il n'a plus qu'à retourner chez sa famille à lui. Donc là encore, pareil, la succession se fait par la femme, et puis l'éducation se fait par les oncles et les tantes maternelles. Et à côté de ces Indiens Pueblo, on a leur voisin Navarro, qui est encore une fois une société matrilinéaire, et c'est la plus grande des nations indiennes aujourd'hui, puisqu'ils sont à peu près 400 000. Donc ce phénomène n'est pas du tout anecdotique, d'autant qu'après on va en retrouver aussi au Canada et en Alaska, on va en parler tout à l'heure. Et j'en profite pour parler d'un autre phénomène étonnant, c'est les berdaches. Alors les berdaches, ce sont les hommes et les femmes qui vont se consacrer uniquement aux tâches traditionnellement réservées à l'autre sexe. C'est-à-dire qu'il y en a dans toute l'Amérique du Nord. Il y a par exemple 100 tribus avec des hommes berdaches qui renoncent à la chasse, à la guerre pour faire du tissage, pour faire les tâches qui sont d'habitude réservées aux femmes. Et il y a une trentaine de tribus avec des femmes berdaches qui, elles, devenaient des chasseurs, des chasseuses, pardon, des guerrières, voire des chefs. Comme dans la tribu Crow, il y a eu une chef qui s'appelait Woman Chief, et qui d'ailleurs avait 4 épouses. Après, même en dehors des sociétés matrilinéaires, on voit des choses chez les Hurons, par exemple, c'est encore une confédération. Il y avait 2 types de conseils dans ces tribus, et les chefs étaient nommés par les mères de clan. La mère de clan, c'est la plus vieille femme de la famille, donc elle avait la responsabilité de désigner le grand chef, et elle avait même de l'autorité sur lui. Donc, honneur aux femmes, on va se passer tout de suite un petit titre. Donc, je vous passe un titre de Wanda Jackson. Wanda Jackson, c'est une chanteuse blanche qui a été très très connue à l'époque, on l'a un peu oublié dans le rock'n'roll. Et il y a une Amérindienne, Thelma Blackmon, qui était d'origine Cherokee, qui lui a écrit 2 titres dès 1956 et 1957. Et donc, on va s'écouter I Wanna Waltz, un des titres de Thelma Blackmon. Voilà, c'était Wanda Jackson avec un titre écrit par une Amérindienne. Alors ça, je l'ai trouvé dans l'excellent dernier numéro de l'excellent fanzine Chéri Bibi, qui parle beaucoup des femmes, et notamment qui nous explique que le rock'n'roll a été créé par les femmes. Un excellent numéro très riche. Donc maintenant, on va aborder les systèmes démocratiques chez les Amérindiens. Donc, on revient chez nos Iroquois pour évoquer leur modèle de constitution qui lie entre elles les 5 puis 6 nations iroquoises. Donc, la Confédération iroquoise a constitué l'entité politique la plus puissante en Amérique du Nord 2 siècles avant Christophe Colomb et 2 siècles après. Donc leur modèle de constitution s'appelait la Guyana Chagowa, et c'est important la Guyana Chagowa. Donc elle se transmettait oralement depuis le XIIe siècle, elle a commencé à être décrite précisément en 1702 par un français, puis elle a été retranscrite intégralement en anglais en 1720, sous la forme de 117 paragraphes qui comprenaient une constitution. Et on sait qu'elle a inspiré ce qu'on appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont signé la déclaration d'indépendance en 1776, qui vont devenir tour à tour ou président ou vice-président, plus quelques personnalités comme Benjamin Franklin. Et ce sont les mêmes rédacteurs qui vont rédiger le projet de constitution des États-Unis qui est adopté en 1787. Donc là, on est quand même avant la Révolution française. Donc, chez nos Iroquois, donc, la propriété du sol est collective, où on peut lire le sol appartient ou est attribué à celui qui l'exploite. Ils pratiquent un mode d'échange fondé sur une économie de dons. Et de toute façon, il suffit de regarder leur habitat. Ce sont de très longues maisons de 30 mètres. Il y en aurait eu parfois jusqu'à 100 mètres. Où vivent ensemble beaucoup de familles. Et c'est là où ils stockent les récoltes et où elles sont stockées en commun. Donc, on en arrive à parler de communisme primitif, parce qu'il y a eu pas mal de nations qui ont été prises en exemple pour illustrer cette théorie du communisme primitif. Rosa Luxembourg, elle, qualifiait le système socio-économique des Incas de communiste. Marx était parti des observations de Darwin en Terre de Feu chez les Yagans pour concevoir sa théorie sur le communisme primitif. Mais là, on est en Amérique du Sud, en Amérique latine. La principale étude sur le thème, la plus marquante, c'est celle en Amérique du Nord de Lewis Henry Morgan sur les Iroquois en 1851. Parce que c'est cette étude qui va inspirer à Engels son livre qui s'appelle « L'origine de la famille, de la propriété et de l'État » en 1884. Donc pour Marx et Engels, les travaux de Morgan tombent très bien, ils sont une confirmation éclatante pour eux du matérialisme historique. Donc pour eux, le droit de propriété est une construction tardive des hommes. Les sociétés primitives ne connaissaient ni classe sociale ni état. C'est le niveau technique des forces productives et l'apparition d'outils productifs qui va produire l'évolution sociale amenant l'apparition et des classes sociales et de l'état et de certaines valeurs et de la morale et même de la famille. Donc, sauf que pour préparer cette émission, moi, j'avais demandé à un historien de me conseiller un livre sur le communisme primitif, et il m'a répondu, le livre de référence, aujourd'hui, c'est celui de Christophe Darmanjat, D-A-R-M-A-N-G-E-A-T, dont le titre est assez évocateur puisqu'il s'appelle « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était ». Donc ça tombe bien parce que là, il y a une troisième édition remaniée qui est sortie en 2022. Je crois que la première édition date de 2012. Donc Darmanjat regrette que l'origine de la famille soit le seul livre de référence pour les sociétés primitives chez les marxistes. Il regrette que le stalinisme ait figé le débat puisqu'il était interdit de remettre en cause en question et Morgan et Engels. Et il nous dit qu'il y a longtemps que des études anthropologiques ont invalidé des pans entiers du livre d'Engels. Alors pour autant, Darmanjat, il loue le génie de Morgan et prévient que sa critique du livre d'Engels ne remet pas en cause les théories marxistes. Mais il prévient aussi, il dit une société matrilinéaire, c'est pas synonyme d'un matriarcat. Et la domination de l'oppression masculine, c'est pas synonyme d'une exploitation économique des femmes par les hommes. Donc il regrette aussi que Morgan ait généralisé ses observations des sociétés primitives aux sociétés préhistoriques, parce qu'il dit on n'a pas grand-chose sur les sociétés préhistoriques. Par définition, on ne peut pas avoir de traces de domination ou pas des hommes sur les femmes. Il dit, l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence. Donc il nous dit aussi que la société iroquoise n'était peut-être pas aussi égalitaire que Morgan l'a cru. Et il redonne la formule, il dit, dans une société égalitaire, il y a toujours des gens qui sont un peu plus égalitaires que d'autres. Donc, j'en termine là-dessus sur le communisme primitif. Peut-être que je pourrais y revenir un petit peu après, si j'ai le temps. Et je vais parler de colonisation, mais on va s'écouter un autre titre du groupe XIT. Alors XIT, ça s'écrit X-I-T. Ça veut dire Crossing Indian Tribes. L'album, c'est Silent Warrior. Et je vous passe la chanson qui s'appelle We Live, Indian Live. Alors maintenant, on va parler un peu colonisation. Donc, au début des années 1840, il y a déjà des premiers colons qui traversent les plaines pour s'implanter dans l'Oregon, hein, sur la côte ouest, juste au-dessus de la Californie. C'est la création de la piste de l'Oregon, qui est utilisée pendant pas mal d'années. Après, l'immigration s'intensifie en 1849, avec la découverte de l'or en Californie l'année précédente. Donc, la ruée vers l'or, donc des milliers de migrants qui vont traverser les territoires de chasse, c'est les gars qu'on va appeler les 49ers. Donc, 3200 km de piste, qui demandaient 5 à 6 mois de trajet en caravane, et qui vont être délaissés avec l'apparition du chemin de fer, et ça c'est très intéressant. Donc, on va parler de 4 lignes de chemin de fer, avec pour chacune d'elles une petite blagounette. Donc, on commence aux États-Unis avec les trois premières lignes de train qui vont se construire d'est en ouest. Donc, ça commence avec la Central Pacific. La Central Pacific, pardon, qui est achevée en 1869. Et la blagounette, c'est que cette année-là, en 1869, la compagnie compte 10 000 ouvriers, 9 000 ouvriers chinois et 1 000 ouvriers blancs. Et le truc, c'est que les Chinois touchent un salaire trois fois inférieur à celui des blancs. Ensuite, on a la Northern Pacific. Alors elle a reçu une concession de 190 000 km de terre en échange de la construction du chemin de fer vers les terres donc inhabitées, terres qu'elle va donc pouvoir ensuite revendre aux colons. Après on a la Southern Pacific, qui s'achève en 1883. Là ce qui est intéressant, c'est qu'elle va inaugurer son premier train de wagons réfrigérés pour le transport d'orange le 14 février 1886 au départ de Los Angeles. Et c'est ce qui va permettre de lancer l'agriculture intensive des agrumes au sud de la Californie. Après on va au Canada, avec la construction de la Canadian Pacific achevée en 1885. Bon, elle s'est construite à partir des deux extrémités. Et la compagnie canadienne avait acquis 10 millions d'hectares, un peu plus même, parce qu'en fait c'est 100 000 acres, et pas auprès des Indiens, ça on verra ça tout à l'heure. Et donc, encore une fois, avec autant de terres à revendre à des colons. Et là, la pépite, c'est le scandale du Pacifique. En fait, la compagnie avait donné 179 000 dollars aux conservateurs pour soutenir leur campagne électorale au Canada, pour obtenir le contrat. Sauf que ça s'est su, les journaux de l'opposition ont commencé à publier tous les télégrammes signés par des ministres dans lesquels ils demandaient des sommes d'argent importantes aux financiers au moment où se décidait l'attribution du contrat. Et il y a un certain MacDonald, dont on va reparler plus loin, qui a été le premier ministre du Canada quasiment sans interruption de 1857 à 1891, qui avait reçu 45 000 dollars en généreuses contributions de la part des compagnies ferroviaires. Et maintenant, je vais parler des crises économiques, parce que les crises économiques aux États-Unis, généralement, on n'a retenu que la crise de 1929. En fait, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu celle de 1837, celle de 1874, c'est la fin de la période dite de reconstruction qui suit la guerre civile. On a la grosse crise qu'on appelle la panique de 1894, après on a la crise de 1909, et enfin la crise de 1929. Donc si on compte bien, ça fait quand même 5 crises économiques en moins d'un siècle, en 92 ans, hein, voilà comment fonctionne le système capitaliste, et là on peut reparler du train. Parce qu'à propos de la crise de 1837, il y a un blues pas très connu de Lucille Bogan qui s'appelle « I hate this train called the M&O train ». Donc M, c'est pour mobile, c'est au-dessus du golfe du Mexique, donc tout au sud de l'Alabama, et O pour Ohio, donc c'était une ligne de chemin de fer sud-nord, qui passe par Saint-Louis du Missouri, qu'on a créé à l'époque pour relancer un petit peu l'activité économique en 1837, à l'époque de la crise. Et puis surtout, il y a la panique de 1874. Alors ça, c'est une très grosse crise qui démarre en Argentine et qui se termine en Angleterre, et dont la cause est la spéculation sur les compagnies ferroviaires. Donc là, il y a pas mal de compagnies qui ferment, des banques, par effet de domino, il y aura beaucoup de chômage, et puis, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas pouvoir rembourser les crédits pour leur maison. Et c'est de là que va naître le mouvement des hobos. On va se retrouver un jour avec 500 000 hobos sur le bord des routes, plutôt sur le bord des chemins de fer ou dans leur campement, leur hobo jungles. Et donc avec cette nouvelle culture qui va apparaître avec le hobo, moi j'ai fait ma première émission sur eux. Bon, la vérité c'est qu'elle est un petit peu pénible à écouter, donc je vais la refaire. Donc, en conclusion, sur le chemin de fer, sur le seul exemple de ces quatre lignes de train achevées sur une période de 6 années, nous avons la colonisation à marche forcée, l'accaparement des terres, le racisme, pas qu'avec les Indiens mais aussi avec mes Chinois, le productivisme avec mon train de wagon réfrigéré, l'affairisme, la corruption et les crises économiques pour illustrer l'irruption chez les Indiens de ce système et de cette idéologie venue d'Europe. Donc on va faire maintenant un petit tour au Canada et en Alaska. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Donc d'abord, terminologie. Le mot indien au Canada, il est à peu remplacé par l'expression First Nations, qui ne comprend pas les Inuits. Donc on revient aux sociétés matrilinéaires. Donc à l'est du Canada, on a nos Iroquois. Et en Alaska, on a deux nations matrilinéaires qui sont les Aléoutes et les Tlingits. Donc encore une fois, les sociétés matrilinéaires, ce n'était pas anecdotique. Ensuite, la colonisation. Donc moi, je présente ça en 5 phases. Donc phase 1, il y a un rapport qui sort en 1867. Et on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de colons à l'ouest du Canada. Donc phase 2. En 1876, il y a une loi qui interdit aux autochtones de devenir propriétaires. C'est l'article 70 de l'Acte des Sauvages, donc, qui interdisait aux Indiens d'exercer tout droit d'établissement dans les prairies. Donc ces lois, on les doit à notre fameux Premier ministre John MacDonald, qui avait organisé une politique qualifiée d'ethnocide envers les autochtones des plaines, parce qu'au centre du Canada, c'est des plaines. Donc pour s'approprier leurs terres, qui a provoqué aussi intentionnellement des famines, il y a eu des exécutions, et puis l'assimilation forcée des enfants dans des pensionnats qu'on va construire spécialement à cet effet. Donc on verra ça après. Donc les autochtones sont chassés dans des réserves où ils n'ont absolument aucun droit, aucune liberté. Ils pourront commencer à sortir de ces réserves qu'à partir des années 50. Donc, avec un petit aménagement en 99, la loi sur la gestion des terres des Premières Nations a permis à certaines tribus de recevoir la gestion des terres sur leurs réserves. Super. Donc, phase 3 de cette colonisation au Canada, donc, le train est achevé en 1883. Donc je rappelle, hein, 10 millions d'hectares achetés après avoir été volés aux Indiens, qui pourront être revendus aux colons, et puis notre McDonald qui se prend 45 000 dollars dans le scandale du Pacifique. Donc phase 4. Donc ce qu'a organisé McDonald, c'est le fait qu'on ait envoyé 150 000 enfants amérindiens de force dans des pensionnats, donc subventionnés par le gouvernement, et ça s'est poursuivi jusqu'en 1996. Donc aujourd'hui, je pense que ça va changer, on dit qu'il y a entre 3 000 et 6 000 enfants qui sont morts dans ces pensionnats. Donc la moitié à cause de la tuberculose ou d'autres maladies infectieuses, et puis certains par suicide ou en tentant de fuir, etc. Alors, entre 1942 et 1952, il y a même quelques établissements qui ont planifié la malnutrition de certains enfants à des fins d'expérimentation médicale. Je n'invente rien, c'est-à-dire qu'on a délibérément affamé des enfants, soi-disant pour élargir les connaissances médicales sur l'apport d'éléments nutritionnels. Donc, c'est ressorti il n'y a pas très longtemps tout ça. Moi, j'ai trouvé un article dans Le Monde du 9 juillet 1921, dont je vous lis un très court extrait. La découverte, le 28 mai 2021, d'ossements de 215 enfants sur les lieux de l'ex-pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, puis celle, le 24 juin 2021, de 751 tombes anonymes sur le site de l'ancien pensionnat de Marieval, dans le Saskatchewan, ont provoqué une onde de choc au Canada. Et ensuite, l'article pose la question, faut-il fouiller les sites des 139 pensionnats autochtones, dont le dernier a fermé en 1996? Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que les chiffres, ils vont pas tarder à changer. Donc phase 5, la conséquence, pour ce qui est des langues maternelles, elles ne jouissent toujours d'aucune reconnaissance dans la constitution canadienne, même dans celle de 1982. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'au recensement de 2011, la plupart des 60 langues autochtones recensées sont menacées de disparition. Donc voilà pour le Canada, et je vous passe un autre titre. Alors là, c'est de Linkray. W-R-A-Y. Donc c'est un Indien d'origine Shawnee qui avait commencé à faire du rock'n'roll en 58. Après, il a fait des choses un peu diverses. Et là, il est revenu en 79 avec un excellent album qui s'appelle Bullshot. Donc je vous passe ça tout de suite.
We're gonna have a wild party. We're gonna have
Voilà, donc c'était Link Wray. Donc là, on va parler d'un truc un peu étonnant. On va parler des Indiens noirs. On va parler... on sait que les Indiens et les Afro-Américains ont pu avoir des liens. Bon, d'abord, ils s'étaient trouvés des points communs, puisqu'ils avaient le même oppresseur. On sait que les Indiens avaient pu donner des plantes médicinales aux Afro-Américains. Et au XVIIe siècle, on a des représentations d'Afro-Américains habillés en Amérindiens. Et pour cause. Donc, tout d'abord, il faut savoir que, au temps où la Floride était espagnole, il y a pas mal d'esclaves qui s'étaient échappés, grossièrement de la côte est, qui s'étaient réfugiés en Floride vers la fin des années 1600, vers 1689. Donc ces esclaves se sont joints à divers groupes amérindiens, qui eux-mêmes déjà s'étaient un peu réfugiés, et le roi espagnol Philippe V d'Espagne va leur proposer la liberté en échange de leur engagement à défendre les colons espagnols. Donc les Espagnols ont organisé ces volontaires noirs en Belize, et leur colonie de Fort Mose en Floride, fondée en 1738, est historiquement la première ville noire officiellement libre d'Amérique du Nord. Alors après, ça évolue au XVIIIe siècle parce qu'il y a des tribus Creeks qui se séparent et qui vont aller en Floride. Ils vont se mêler à d'autres encore, aux tribus indiennes. Et puis il y a des esclaves noirs qui continuent de s'échapper. Et donc, on va les appeler Séminoles parce que ça viendrait de l'espagnol cimarron qui veut dire fuyard. Et ce mot est également la source du mot français marron pour esclave marron, celui qui s'est enfui, et aussi du mot anglais maroon. Donc il y a quand même deux communautés différentes. Il y a des Indiens avec beaucoup d'honneur dedans, et puis des communautés très très de Séminoles noirs, où c'est les Afro-Américains qui sont les plus nombreux. Et là où on voit l'importance de ce phénomène, c'est par l'importance et la durée des guerres. Donc il y a une première guerre séminole vers 1817-18. Après la seconde guerre séminole, 1835 à 1842, en fait, c'est la plus coûteuse des guerres indiennes qu'ont mené les États-Unis et une des plus longues. Après, il y a une troisième guerre séminole en 1855 à 1858. Et les séminoles, donc, c'était eux-mêmes surnommés à un moment les invaincus. Et ces guerres auraient fait 1500 morts dans les soldats américains. Alors que, bon, c'est énorme, puisque à Little Bighorn, il n'y a que 260 et quelques hommes du 7e de cavalerie qui vont trouver la mort. Et puis, ça a été aussi l'occasion d'une grande révolte d'esclaves, donc la première de cette importance et la plus réussie. Alors là, je n'ai pas un bouquin à vous nommer, mais il y a un site internet qui s'appelle johnhorse.com, avec beaucoup d'informations, de reproductions, de dessins, et l'histoire de leur chef John Horse, H-O-R-S-E. Alors, après, il y a des Séminoles qui vont être redirigés vers le Mexique, et donc on va les appeler les Muscogos, mais en fait, ça vient de Muscogee, c'est l'ensemble des langues aussi que parlait les Cris. Alors, on va parler un peu éducation. Un tout petit peu éducation et puis écologie. Donc, l'éducation chez les Amérindiens, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de surveillance. Les enfants étaient libres de dormir quand ils voulaient et de choisir leur activité quand ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre par l'exemple, ils se mettent à une tâche quand ils voulaient, en faisant leur propre expérience. Et quand ils faisaient des erreurs, comme il y avait peu de directives, du coup il y avait peu de réprimandes et jamais de punitions. Quand on lit un petit peu tout ça, on a l'impression d'être sur du Montessori avant l'heure. Avec aussi l'importance des grands-parents pour ce qui est de la transmission de la culture, des mythes et des traditions. Donc là c'est pareil, bon, les femmes avaient une grande importance, même en dehors des sociétés matrilinéaires, pour ce qui est de l'éducation. Donc évidemment, ça a été autre chose quand on a mis les gamins indiens dans des écoles, et surtout les filles, avec des programmes couture, cuisine, blanchisserie, repassage, nettoyage et périculture. Et dans les séminaires, c'était prière du matin et du soir, lecture de la Bible la plupart du temps sans beaucoup d'explications, plus les offices, donc conditionnement et déculturation. Alors je vais citer un Indien Péco, enfin, qui était métis, William Apes. Donc les Péco, vous les cherchez pas, ils ont quasiment tous disparu dès le XVIIe siècle, dans ce qui sera qualifié aux États-Unis comme un des tout premiers génocides. Et donc, William Apes avait déclaré « La façon dont ils œuvrent à réduire en esclavage un peuple libre en appelant cela religion dépasse le pouvoir de mon imagination. » Donc c'est l'État qui payait les missions pour civiliser les Indiens depuis 1819, avec le Civilization Fund, voté par le Congrès, jusqu'en 1917, parce que là il y a un petit acte de séparation de l'Église avec l'État qui change un petit peu la donne. Alors, je vais parler un tout petit peu d'écologie, pas énormément. Quand même, on connaît l'exemple des trois sœurs, quand les Iroquois ou tout un tas d'Indiens cultivent et le maïs, et le haricot, et la courge, avec le haricot, qui est donc une légumineuse qui va enrichir le sol en azote, et puis la courge qui va recouvrir le sol pour éviter l'évaporation. Et aujourd'hui encore, chez les Zuni, je crois, en fait, les femmes ont des coiffes, c'est des tresses qu'elles mettent en rosace sur les oreilles, et pour imiter la fleur de courge. Et donc, ces cultures associées, elles redeviennent de plus en plus à la mode. On est encore très loin des excès, donc du productivisme, et en même temps on y revient. Alors une petite chose, c'est pour les Navarros. En fait, j'ai découvert qu'en fait il y a pas mal de gibier qui leur étaient interdits, beaucoup même, et à l'arrivée ils ne peuvent plus chasser que le interdit par leur tradition, hein, que l'antilope américaine, le cerf, et puis quelques oiseaux, c'est tout. Donc c'est pas des gens qui vont détruire leur environnement. Et puis j'avais envie de parler d'une petite chose, parce que c'est pas très connu. Donc c'est l'histoire des pêches cultivées par les Navarros, parce que ça commence par la longue marche en 1864. Il s'agit de déporter des Indiens, on leur fait parcourir 500 km à pied, sauf quand il y avait de la place dans les chariots pour les femmes et les enfants. Donc ça part d'en dessous du canyon de Chelly, dont je vais reparler, pour aller à l'est, dans un camp qui s'appelle Bosque Redondo. Donc à la fin de l'année 1864, il y a à peu près 9000 Indiens, on va dire, qui sont détenus dans ce camp de Bosque Redondo. Pour donner une idée des conditions de ce camp, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis en 1970 et qui a pour titre « Bosque Redondo, un camp de concentration américain ». Voilà. Et alors pendant cette marche, quand les militaires déportent donc les Navarros, ils interdisent aux Navarros d'emporter leur bétail, donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils tuent tous les animaux. Après, ils bouchent les puits, et puis ils coupent les pêchers. Et là, donc, je vais évoquer la culture des pêches chez les Navarros, parce que, je sais pas, ça me fascine. Ils faisaient ça depuis très longtemps, depuis au moins le XVIIIe siècle, dans le canyon de Chelly. Donc, il faut imaginer, c'est l'Arizona, il y a un immense canyon aride, en Y, d'est en ouest, 40 km de long, donc le fond est sablonneux, c'est bordé de falaises qui peuvent faire 300 mètres de haut, et eux cultivent des arbres fruitiers, notamment les pêches. Alors ils ne taillent pas les arbres, hein, parce qu'en France on taille les arbres fruitiers dès qu'une branche est tordue, et ils ne coupent que les branches mortes pour récupérer le bois, pour faire du feu, et chaque année, c'est l'occasion en septembre de réunir les différentes tribus pour partager la récolte, parce qu'ensuite ils coupent les pêches en deux, ils les font sécher et ils les mangent toute l'année. Et au cours des siècles, les Navarros avaient adapté les variétés aux conditions très particulières de climat et de sol. Donc il y a aussi des échanges de noyaux de pêche. Donc voilà, et quand les Américains sont arrivés, eux, ils ont coupé tous les pêchers. Donc maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur les guerres intertribales. Alors les guerres intertribales, ce que je voulais dire, c'est que souvent elles ont eu pour origine la colonisation elle-même. Alors moi j'ai trouvé 5 exemples, c'est dans aucun bouquin, mais moi j'ai rassemblé 5 exemples. Donc premièrement, donc on sait que ces guerres intertribales, elles étaient facilitées par les chevaux amenés par les Blancs, c'est-à-dire que les Indiens avaient besoin de moins de temps à consacrer à la chasse, et ils pouvaient projeter des expéditions guerrières plus loin et plus vite. Deuxièmement, un autre exemple, donc, c'est des guerres qui ont pu naître des traités imposés par les Blancs. Par exemple, en 1840, il y a des Kiowas qui vont s'allier avec leurs ennemis traditionnels, des Cheyennes, des Comanches, des Apaches, pour lutter contre des tribus originaires de l'Est que les Américains forçaient à leur tour à s'installer dans ce territoire indien. Donc ça s'est terminé encore par un... L'armée américaine a dû intervenir et on a refait un traité. Alors les traités, je crois qu'il y en a eu 370 aux États-Unis, aucun n'a jamais été respecté. Donc troisième exemple de guerre intertribale, en fait, la guerre civile. Donc on va le voir juste après, il y a pas mal d'Indiens qui sont mis du côté des Confédérés notamment. Et les Cherokees n'étaient pas tous d'accord pour s'allier aux sudistes. Donc il y aurait eu des heurts, peut-être même des combats. Et à la fin de la guerre civile, donc il faut savoir qu'il y a leur... À la fin de la guerre civile, donc les tribus étaient non seulement réduites parce qu'il y a eu des morts, mais en plus elles étaient en conflit encore. Donc quatrième exemple, c'est pas mal, c'est l'histoire des Hurons et des Iroquois au Canada. Donc ils avaient commencé leur guerre bien avant l'arrivée des Européens, mais ensuite ils ont continué, ou ça a augmenté pour mettre la main sur la traite des fourrures, ou disons pour au moins avoir plus de terres sur lesquelles ils pourraient piéger plus d'animaux pour obtenir plus de gains avec la traite des fourrures qu'avaient lancé les Français, puis s'y sont mis les Anglais et même les Hollandais. Après, un cinquième exemple, c'est l'assassinat de Sitting Bull. Donc moi je vais me baser sur un livre que j'ai bien aimé, qui est sorti chez Flammarion en 2019, en plus un joli bouquin, Dernier la Pointe, qui est l'arrière-petit-fils de Tatanka Iyotake, donc plus connu sous le nom de Sitting Bull. Donc Sitting Bull, il a été trahi par One Bull, donc c'est le fils de sa sœur aînée, qui était donc lui-même l'informateur, l'indicateur pour les autorités de la réserve indienne de Standing Rock. Et donc Sitting Bull est assassiné en 1890 par 43 policiers indiens, parce qu'il dérangeait les autorités, parce qu'il refusait de devenir fermier et d'abandonner sa religion, ce que beaucoup d'autres avaient déjà fait, et qu'il avait beaucoup d'influence sur cette tribu, et aussi parce que les autorités croyaient que Sitting Bull soutenait le mouvement de la Ghost Dance, qui avait amené une rébellion qui va se terminer par le massacre de Wanapni. Alors, pour la petite histoire, la réserve de Standing Rock existe toujours encore, évidemment, et d'après les études réalisées entre 2012 et 2016, le revenu moyen par habitant est de 14 000 et quelques dollars, c'est-à-dire qu'il est à la moitié, on va dire, de... moins de la moitié du revenu moyen au Dakota du Nord ou au Dakota du Sud, et moins de la moitié de la moyenne nationale. Et sur cette même période, il y a 42,2% de la population de la réserve de Standing Rock qui vivait sous le seuil de pauvreté, alors qu'à l'échelle des États-Unis, on était à 12,7%. Et on peut rajouter que ce meurtre a été l'origine d'une grande division chez les Unkpapa. Donc, je vais peut-être vous faire une petite pause musicale. Ah, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Ok. Donc, on va aborder les 5 tribus civilisées. Alors là, c'est le mauvais passage pour les romantiques. Donc, les 5 tribus civilisées, c'est le vocable qui sert à désigner 5 nations amérindiennes aux États-Unis, considérées comme ayant été civilisés parce qu'ils avaient adopté beaucoup de coutumes locales. Ils s'habillaient à l'occidental, ils habitaient dans des maisons en dur, ils avaient des plantations et des esclaves, et donc de bonnes relations avec leurs voisins. Donc je vais les nommer, ces 5 tribus civilisées. Ce sont les Cherokees, principalement, les Chicacha, les Chocto, les Quick et certains Séminoles. Et donc, le truc intéressant avec les 5 tribus civilisées, c'est la guerre de sécession. Parce que ces 5 tribus se sont battues du côté des confédérés, des sudistes. À peu près plus ou moins 10 000 Indiens. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour dire la vérité, le Nord aussi avait commencé par refuser d'engager des Indiens. Puis finalement, ils vont trouver ça assez pratique. Donc ils vont en embaucher quelques-uns, mais... beaucoup moins que les sudistes. Et encore une fois, si ces cinq tribus civilisées se sont associées aux sudistes, on va voir pourquoi. Donc, je dois parler de l'esclavage. Donc l'esclavage, lors des guerres entre tribus, il y a plusieurs solutions. Soit les captifs sont tués, alors ça peut prendre du temps parce que les tortures indiennes, c'est pas une légende. J'ai eu des trucs un peu étonnants. C'est pas une légende, mais un petit peu quand même, parce qu'il faut dire que on a pu un peu exagérer, parce que des missionnaires ou des pasteurs ou des curés y étaient passés, et donc il fallait en faire des martyrs. Donc, les prisonniers, soit on les tuait, soit on en faisait des esclaves, soit on les adoptait, pour qu'ils deviennent membres de la tribu. Donc, quand on les adoptait, ils devenaient 1 ou 2 ans esclaves, notamment des femmes. Et donc c'était d'autant plus facile que souvent ils parlaient des langues qui se ressemblaient. Et pour dire la vérité, par exemple chez les Iroquois, c'est un peu comme ça qu'ils ont varié leurs problèmes démographiques dû aux maladies ou aux guerres. Ils ont adopté de plus en plus des membres d'autres tribus. Donc au passage, lors de la traite des fourrures, les marchands anglais donnaient des textiles, du sucre, tout ce que vous voulez, mais aussi parfois des esclaves noirs. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc les Cherokees, il y a un chiffre, en 1861, ils auraient eu 4000 esclaves noirs pour leur plantation, parce qu'il y avait des gens qui avaient quelques esclaves, d'autres sans esclaves, d'autres 400 esclaves, c'était vraiment des gros planteurs qui étaient d'immenses maisons de planteurs. Alors les Cherokees auraient aboli l'esclavage en 1863, et c'est assez théorique, ils ne l'ont pas toujours respecté, c'est-à-dire que, en pratique, donc soit ils les ont maintenus, soit ils ne les ont pas libérés, ils les ont exclus de leur champ, de leur tribu, etc. Alors, je continue sur la nation Cherokee, parce qu'en 2004, en fait, ils ont défini officiellement le mariage comme une union entre un homme et une femme, et donc ils ont mis hors la loi le mariage homosexuel. Donc dans le même état d'esprit, là c'est pas mal aussi, en mars 2007, les Cherokees ont voté en majorité à 77% pour l'expulsion des descendants d'anciens esclaves afro-américains de leur nation s'ils ne peuvent pas prouver une ascendance américaine. Donc moi ce qui m'amuse, c'est qu'il y a pas mal de personnalités américaines, enfin des artistes, qui revendiquent des origines amérindiennes et... quasiment tout le temps, il s'agit d'origine Cherokee. Donc je vais donner une petite liste. Donc on a Burt Reynolds, on a Miley Cyrus, on a les Jonas Brothers, on a Tommy Lee Jones, on a Johnny Depp, on a Elvis Presley, Dolly Parton, Ben Harper, Joe Louis le boxeur, T-Bone Walker le musicien, Rauschenberg le peintre et Ronnie Spector des Ronettes. Donc pourquoi ça m'amuse? Parce que finalement, quand on connaît l'histoire, c'est pas étonnant qu'il y ait tant de personnes qui aient eu des origines Cherokee. Et ça fait joli d'avoir des ancêtres Cherokee, mais surtout, si on oublie leur passé esclavagiste, assimilationniste, si ça se dit, et pro-confédéré. Donc... il y a une petite exception avec notre cher Robert Mitchum qui, lui, avait des origines Blackfoot. Alors, on en profite pour s'écouter un titre des Indiens Blackfoot. Hein. C'est le nom du groupe. L'album s'appelle Tomcatine, ça veut dire chaud lapin. Donc, sur la pochette, on a une grosse panthère noire. Et c'est un visuel qui correspond assez à leur style, puisque c'est du rock sudiste, et même un petit peu hard rock. Hein, la preuve, c'est qu'il y a un slow au milieu. Donc nous, on va pas s'écouter le slow, on va s'écouter In the Night. I can. Oh, she's got a hold on me. The kind of woman. La nuit, tous les Indiens sont gris, c'était In the Night par Blackfoot. Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire pour cette 10e émission Livre en lutte, aujourd'hui les Amérindiens en Amérique du Nord. Il me reste deux points à évoquer, la Ghost Dance et le massacre de Wounded Knee. Donc en 1890, il y a un chef religieux qui s'appelle Wovoka, qui lance un mouvement spirituel, on va dire. Il crée cette danse qu'on appelle la Ghost Dance, la danse des esprits. Et bon, lui-même avait prêché qu'il fallait vivre en paix, ne pas refuser de travailler pour les Blancs, mais en fait le peuple, Hongpapa, hein, des Lakota, eux ont plutôt choisi de faire la guerre. Donc il y a 400 danseurs qui s'enfuient d'une réserve. Et puis c'est ça qui va donner lieu au massacre de Wounded Knee. Donc moi ça m'intéresse parce que il y a des prolongements jusqu'en 1973. Donc Wounded Knee, fin décembre 1890, donc l'armée fournit la quota des tentes, des rations, et à ce moment-là il compte 120 hommes et 230 femmes. Après il confisque les armes, il y a une eau chauffourée, un coup de feu part, et là les soldats ouvrent le feu, et en quelques minutes ils tuent 370 Lakota. Et ils ont même poursuivi les hommes et les femmes pour les abattre à plusieurs kilomètres du lieu de la première bataille. C'est pas mal, mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, il y a des organisations radicales comme l'AIM, l'American Indian Movement, qui voulaient sortir du mode de vie imposé dans les réserves et qui ont commencé des actions un peu spectaculaires. Et la plus connue, c'est l'occupation du site de Wounded Knee par 300 Indiens en 1973. Et en réaction, en fait, le FBI a envoyé 2000 hommes déblindés. Ils ont fait un siège de 71 jours. Et à l'arrivée, on aura deux Indiens tués. Voilà, donc, comme d'habitude, on va terminer cette émission par le roman noir. Alors, je rappelle que début, premier week-end de décembre, vous avez la troisième édition du Festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine, avec une trentaine d'invités, des conférences, de la musique, etc. Et donc, pour cette émission, j'ai lu mon premier, Tony Hillerman. Donc, c'est un auteur blanc dont les romans se déroulent souvent dans des réserves indiennes. Donc, celui-là s'appelle Là où dansent les morts. Il avait reçu le prix américain Edgar Allan Poe du meilleur roman policier nord-américain en 1974. On retrouve son personnage de Lip Horn, c'est un lieutenant de la police tribale Navarro. Et c'est vraiment un très bon bouquin. On passe une semaine avec les Amérindiens, donc Hopi, Zuni et Navarro, dans leur paysage. Il y a même une carte faite dans la version française, avec beaucoup de vocabulaire indien, avec notamment un glossaire avec 55 entrées, d'autant que c'est à l'approche d'une cérémonie religieuse. Donc on parle des Kachinas, qui sont à la fois et des esprits ancestraux, et les statuettes qui les représentent, et les masques qui les personnifient lors des cérémonies. Donc ce polar, on croise un seul indien alcoolique. Il y a du trafic de drogue, mais il n'est pas pratiqué par les Indiens. Il y a aussi le reste d'une communauté hippie, puisqu'il date de 1973. Un roman policier où on apprend pas mal de choses. Alors, parce que malgré tout, ce qui est rigolo, c'est que dans la religion, la philosophie Zuni, il milite beaucoup contre la violence. Même la colère intérieure et contenu caché est tabou pendant les cérémonies religieuses. Il n'y a quasiment jamais eu d'homicide chez les Zuni, et quand ça se fait, ça se règle avec des cadeaux, c'est le fameux Vergeld, hein, le prix de la mort. On fait un cadeau en réparation à la famille qui a eu un décès. D'ailleurs, chez les Iroquois, pour une femme, ça coûtait plus cher que pour le décès d'un homme. Et donc, dans le glossaire de ce polar, il y a encore une note sur le système matrilinéaire. Donc c'est vraiment, je trouve, une excellente porte d'entrée pour s'immerger comme ça chez les Amérindiens. Donc cette émission touche à sa fin. Donc prochaine émission, je pense que je vais refaire donc mon émission sur les hobos. Et là on va se quitter avec un titre qui s'appelle Wovoka, et qui est du groupe Whitebone. Alors Whitebone, ils étaient d'origine Shoshone Yaki est mexicaine. Donc, on va s'écouter ça.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.